Merci beaucoup. Jeff, quand on se promène à la grandeur du Québec, on constate que les infrastructures manquent un peu d'amour.
Oui,
il y en
vraiment.
A certains qui laissent à désirer. Prenons exemple du pont de Québec qui, depuis les années 80, on nous dit à un moment donné, il va être repeinturé. Après ça, on a commencé à le peinturer. Finalement, le contrat n'a pas été fait à la grandeur. Là, donc, il est 4-5 couleurs, le pont de Québec. Puis, j'imagine que des fois, le pont de Québec, il peut être l'image de ce qu'on peut voir à la grandeur du Québec. C'est-à-dire, on commence des affaires, on agit sous la loi du plus bas soumissionnaire, puis après ça, une fois que les élections sont passées, on a-tu vraiment besoin de se concentrer là-dessus? Et dans un article de Radio-Canada, on laisse sous-entendre que l'entretien des infrastructures au Québec serait peut-être menacé par le gel d'embauche. La SQI qui s'interroge comment mener à terme tous les projets d'infrastructure promis par Québec tout en maintenant ses actifs alors qu'on lui demande de geler l'embauche. Et on a eu idée d'inviter Andy Guyaz, qui est ingénieur secrétaire trésorier, Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec, et aussi ami d'enfance de Denis Gravel.
Ben, c'est ce qu'on a appris!
De ce qu'on comprend. Bonjour Andy, comment ça va?
Bon matin messieurs, ça va très bien vous-même?
Ça va très bien. Est-ce qu'on a des raisons de crainte pour nos infrastructures au Québec? T'sais, je lisais ce matin que le nouveau pont qu'on a bâti à Montréal est déjà en train de rouiller. Qu'est-ce qui se passe?
Ben, écoutez, si on y va avec le pont Samuel de Champlain à Montréal, c'est une structure qui est flambant neuve, donc c'est normal qu'il y ait des petites interventions à faire à gauche, à droite. Tu sais, de penser que la livraison du pont va être nécessairement parfaite dès le départ, c'est pas, ça peut pas arriver. Donc, c'est pour ça qu'une infrastructure, ça vieillit, il y a un cycle de vie. Il faut prendre les infrastructures au bon temps, au bon moment pour faire les bonnes interventions. En fait, c'est ça qu'on fait pas actuellement sur l'ensemble de nos infrastructures au Québec, les routes, les structures du ministère des Transports, au niveau des barrages, de l'environnement. Fait que je suis pas étonné là, que la SQI soit sortie en fin de semaine justement pour déclarer ça, parce que oui, les coupures vont avoir un effet. S'il n'y avait pas d'effet, je veux dire, on peut pas penser sincèrement se faire dire « Écoutez, on va couper, mais il n'y aura pas de bris dans le service de la population. » Ça, ça veut-tu dire que chez nous, on a perdu 150 ingénieurs? Ça veut-tu dire que les 150 ingénieurs faisaient absolument rien?
Ben, je vous la pose la question.
Ben là, non. En fait, ils font des... Tout ce qu'on fait, tout ce que le ministère... le gouvernement de la CAQ fait en ce moment, c'est de pelleter en avant. Pelleter en avant, là, on le sait, là, les élections s'en viennent. Ils retardent tous les projets. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire dans les prochains mois? Les élections vont commencer. On va commencer à construire des nouvelles structures au lieu d'entretenir ce qu'on a déjà entretenu, ce qui est déficient. On veut couper des rubans dans la prochaine année. Là. C'est ça qui va arriver. Là.
Qu'est-ce qui vous choque le plus dans votre travail?
C'est de ne pas faire d'ingénierie.
Alors que vous êtes ingénieur?
Alors qu'on est ingénieur. Vous poserez beaucoup de questions. Vous pourrez poser des questions aux différents ingénieurs qui travaillent dans les fonctions publiques. On est dans la paperasse. On n'est pas capable de faire de l'ingénierie à la hauteur de ce qu'on voudrait faire. Puis c'est problématique parce que je comprends que la commission Charbonneau est arrivée dans les années 2015, mais là, on a peur d'avoir peur. Fait que là, on met des couches administratives de vérification, puis pendant ce temps-là, nos ingénieurs remplissent des formulaires, remplissent des papiers, mais ont plus les deux mains dans à faire du travail.
OK. Puis les papiers qu'ils vous font remplir, est-ce que c'est des papiers qui sont importants, que seul un ingénieur peut remplir?
C'est sûr qu'il y a une certaine...
Rassurez-moi!
Il y a une certaine importance, mais c'est parce que là, tu sais, à toutes les fois que... C'est le réflexe naturel, puis là, je vais viser les transports, là, c'est le réflexe naturel. Dès que le VGQ passe au ministère des Transports, là, on va mettre une couche administrative pour s'assurer que ce que le VGQ demande, tu sais, qu'on puisse démontrer que notre bilan est bon. Fait il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, c'est une folie, là, ce qui est en train de se passer, là. Tu sais, on a 65 000 ingénieurs à grandeur du Québec, actuellement. Il faut pouvoir faire de l'ingénierie. Là, c'est sûr que je vais parler pour ma paroisse, c'est-à-dire les ingénieurs qui travaillent pour l'État.
Ouais.
On est capable de faire des projets à l'interne. On en donne beaucoup trop à l'externe. On n'a pas la prétention de dire qu'on peut tout rapatrier à l'interne, mais l'équilibre entre ce qui est fait actuellement au privé puis par nos ingénieurs à l'interne, il y a un déséquilibre. Puis même, j'entendais M. Bigra des firmes de génie conseil qui était sorti, ça fait déjà quelques semaines, pour dire que lui aussi, là, il trouve qu'il y a trop de paperasse. À un moment donné, mettez-vous à leur place. Ça, c'est des firmes d'ingénieurs, de génie conseil, qui veulent faire des travaux, mais quand le client est trop compliqué, le client, en l'occurrence, le ministère des Transports, ou n'importe quel ministère dans l'État, quand c'est compliqué d'octroyer des mandats, c'est pas intéressant comme client.
Est-ce que le gouvernement, dans ces coupures qu'ils font à l'heure actuelle, font comme dans plusieurs autres endroits, plusieurs autres ministères, c'est-à-dire coupe sur le terrain, mais on garde justement les cadres, puis on garde toute cette bureaucratie-là, ces organigrammes-là?
Bien, c'est une question intéressante. Bien, il y a beaucoup de coupures chez tous les fonctionnaires. Puis, tu sais, un ingénieur ne peut pas faire tout seul.
Mm-hmm.
C'est sûr que si on lui coupe les techniciens, si on lui coupe des adjointes administratives, si on coupe des professionnels, bien, nécessairement, un ingénieur doit être entouré d'une équipe pour pouvoir faire de l'ingénierie puis faire des projets.
Oui, d'une équipe terrain, là.
Oui, une équipe terrain, mais tu sais, vous regardez l'organigramme des ministères qui ont évolué dans les années, là, je veux dire, les organigrammes sont rendus épouvantablement gros.
Très complexes.
S'ils n'y a même plus sur une page, là, on a besoin de plusieurs pages pour comprendre toute la structure du ministère ou des ministères, parce que là, j'ai toujours le ministère des Transports en tête, là, mais je veux dire, c'est rendu... C'est rendu énorme.
Mm-hmm. Est-ce qu'on perd des ingénieurs à l'intérieur même de notre structure? T'sais, je prends par exemple Hydro-Québec là, avec son plan de 150 milliards. Là. Est-ce que on se mange nous-mêmes?
Ben, en fait, effectivement, vous savez, le paradoxe est un peu l'inverse chez Hydro-Québec. Vous savez, Hydro-Québec a comme un aura que les gens aiment bien Hydro-Québec, mm-hmm. puis qu'ils viennent nous secourir quand on parle d'électricité. Fait que tu sais, eux, pendant que nous, on est coupés, ben, ils viennent ramasser tous nos ingénieurs. Les effectifs des ingénieurs chez Hydro-Québec augmentent, depuis les 5 dernières années, augmenté d'à peu près 600 ingénieurs.
OK.
Tandis que nous, dans la dernière année, depuis qu'on est en gel d'effectifs et coupure de postes, ben, on a perdu 150.
Donc, si on regarde ça de l'extérieur, on laisse dépérir nos routes, nos structures au bénéfice d'Hydro-Québec et de son plan de développement?
Bien, actuellement, c'est ça qui se passe. Je veux dire, nos ingénieurs là, qui quittent la fonction publique vont aller se réorienter ailleurs parce que le marché est en surchauffe. Là. 65 000 ingénieurs, c'est pas tant que ça pour tout ce qu'il y a à faire. Vous savez, les gens, là, quand on parle de 164 milliards de dollars dans le PQI, dans le Programme québécois des infrastructures, on dirait qu'ils oublient le chiffre. C'est 164 000 millions de dollars. C'est du travail, là.
Oui, merci.
Fait que là, pendant tout ce temps-là, on chicane, on est en conflit de travail, on est en gel d'effectifs parce que là, semblerait-il que la CAQ a trop dépensé dans les dernières années puis là, elle a les deux pieds sur le frein. On peut pas continuer comme ça, là.
Andy Guyaz, vous êtes ingénieur secrétaire trésorier à l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous et vos collègues restiez au gouvernement? C'est quoi votre avantage à rester là plutôt que de faire comme les autres puis partir? Bon, c'est la même poche, j'allais me dire, mais pour partir pour Hydro-Québec. Qu'est-ce qui vous fixe là jusqu'à la nuit des temps, jusqu'à votre retraite?
Tu sais, vous savez, le Hydro-Québec, oui, c'est un acteur, mais tu sais, on va dire le plus gros acteur en termes de poids, c'est les firmes de génie conseil. Mm-hmm. C'est eux qui embauchent le plus d'ingénieurs. Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans la fonction publique? Je pense que c'est tous les ingénieurs vont être d'accord avec moi que c'est on veut servir le public.
Est-ce que le salaire et le fonds de pension est plus élevé qu'ailleurs?
On a eu des bons correctifs. Dans les deux dernières négociations, il faut avouer qu'on est sur le marché actuellement. Le gouvernement est compétitif avec les règlements qu'on a réussi à convenir ensemble dans les deux dernières négociations. Ceci dit, une fois que le rattrapage est fait, il faut se maintenir. Il faut se maintenir dans un marché qui est compétitif ou est-ce que les salaires... C'est sûr qu'il y a un enjeu sur les salaires. Je veux dire, on n'attire pas un ingénieur en lui donnant des pinottes. Je veux dire, c'est pas comme ça que ça peut marcher, mais je pense que nos ingénieurs sont fiers de travailler pour l'État, sont fiers de participer, parce que, vous savez, il y a des défis intéressants. C'est le fun de travailler sur des barrages. C'est le fun d'être gestionnaire de barrages, exemple, aux ingénieurs en environnement, où est-ce qu'ils ont à entretenir tout près de 900 barrages. Mais ça prend des moyens. Ça prend des moyens pour les entretenir, pour les surveiller puis s'assurer que tout ça est sécuritaire. Non?
Comment on vous octroie un job au gouvernement quand vous êtes ingénieur?
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Les donneurs d'ouvrage, ils vous octroient comment la job? Parce que là, vous me dites, on remplit beaucoup de paperasse au
ouais.
gouvernement. Qui vous donne ce genre de travail-là, contrairement à peut-être d'autres emplois qui serviraient peut-être un peu plus à un ingénieur?
Ben, c'est la machine. C'est la machine génère les formulaires. Fait que c'est rendu compliqué de donner un mandat en sous-traitance. Ça nécessite beaucoup de temps, ça nécessite beaucoup d'interventions. Puis on est tellement plus rendu habile, ne serait-ce qu'à donner des contrats à l'externe, que les besoins initiaux qui ont été évalués au bout de 5 à 6 ans avant qu'on donne le contrat, bien, les besoins initiaux sont plus les mêmes.
Puis est-ce que ça coûte plus cher donner la job à l'externe qu'à l'interne? Ou c'est meilleur, c'est un meilleur rapport qualité-prix quand on donne la job à l'externe?
C'est sûr que ça coûte plus cher à donner ça à mandat à l'externe. Je veux dire, une firme.
Alors
de,
pourquoi on le fait?
Une firme de génie conseil. Ben, c'est parce que sinon, il va falloir embaucher tous les ingénieurs dans la fonction publique. T'sais, je veux dire, il y a un équilibre qui fait en sorte que les firmes de génie conseil font partie du paysage, doivent réaliser des mandats, puis on n'est absolument pas contre ça, la sous-traitance. Par contre, c'est la proportion. T'sais, les ingénieurs à l'interne, pour qu'ils puissent se garder. Je veux dire, ils ont une expertise technique, mais tu sais, pour se garder la main, ils doivent en faire des projets.
Oui.
Ils doivent se mettre les deux mains dedans pour continuer d'apprendre puis d'évoluer dans leur carrière, dans leur technique. Fait que c'est rendu compliqué de faire des projets au Québec, malheureusement.
Je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure avec le fait qu'on a le projet initial, puis là, ça prend 5-6 ans avant de le démarrer. Est-ce que ça vient expliquer beaucoup de retard puis beaucoup de dépassement de coûts? Et est-ce qu'il faudrait mieux prioriser nos projets justement pour quand on a une idée, on la mette en réalisation immédiatement?
Vous avez absolument raison. C'est ça qui coûte le plus cher parce que, comme je vous dis, étant donné que les besoins initiaux ne sont pas les mêmes qu'à la fin, étant donné la durée, ben là, après ça, on repart encore pour réévaluer l'ensemble du projet.
Fait qu'on fait trois, quatre fois des études pour le même projet.
C'est épouvantable. Puis pendant ce temps-là, ben on va avoir des infrastructures qui vont céder. Puis là, on est obligé d'agir en urgence. Quand on est en mode urgence, par exemple, là, on est agile. Là. En dedans de quelques jours, là, on est capable d'intervenir sur le terrain sans problème.
Vous parlez de mode urgence, justement, on est-tu à la veille de revoir un viaduc comme le Concorde s'effondrer? T'sais, on est-tu rendu à un point critique comme ça?
Je vais faire attention à ce que je dis, mais c'est sûr qu'avec 30 000 km de route, avec 9 000 infrastructures, d'avoir une pensée magique de dire en coupant dans les effectifs puis en pensant que l'ensemble du travail va se faire comme si de rien n'était, je pense que vos auditeurs sont capables de comprendre que t'sais, on a un parc qui est vieillissant. Au lieu de couper des rubans sur des nouvelles infrastructures, on devrait s'occuper de notre réseau qui en a bien besoin parce que juste de refaire de l'asphalte, c'est pas la bonne chose à faire pour une route. Il y a des fois qu'il faut intervenir au niveau de la fondation. Il y a un cycle de vie, comme je mentionnais tantôt, sur une infrastructure. Il faut respecter le cycle de vie pour l'amener le plus loin possible.
Est-ce qu'on l'étire beaucoup, ces temps-ci, le cycle de vie?
C'est très étiré.
Très étiré.
C'est très étiré. De toute façon, vous êtes en mesure de le voir vous-même.
Bon, on le constate nous-mêmes. C'est que, tu sais, des fois, on regarde ça, nos infrastructures, puis sachant que ça commence à être désuet, puis que ça ne dure pas vraiment longtemps, monsieur. il y a des accolades.
Une grosse colle de Denis! Colline! Non, mais le fun!
On entretient à peine ce réseau-là d'infrastructures, puis tout ça a été bâti sous la loi du plus bas soumissionnaire. C'est un problème, ça, selon vous, la loi du plus bas missionnaire?
Bien, c'est sûr que c'est un problème qui... Oui, c'est un problème. Je veux dire, le matériel coûte la même affaire pour tout le monde. Ouais. Les pièces d'acier, les équipements, la main-d'œuvre coûte à peu près similaire.
Mais le plus bas missionnaire, il fait son argent où?
Ah, bien, il va faire son argent quand le contrat n'est pas clair. Les extras. Les fameux extras. Quand c'est pas... Je veux dire, les firmes de génie conseil sont là pour faire du profit, puis c'est bien correct. C'est bien correct comme ça, sauf que quand le contrat initial n'est pas clair, quand il arrive des imprévus sur le chantier, ben c'est là qu'on sort du mandat initial, puis que là, finalement, c'est là qu'il y a beaucoup d'argent qui sort. Là.
OK. Mais advenant le coup, il n'y a pas d'extra, là, tu sais, puis là, c'est le plus bas soumissionnaire qui l'a emporté. Est-ce qu'il peut faire de l'argent en tournant un coin rond? Parce que je sais qu'il y a un mécanisme de surveillance directement sur le chantier. Il y a des vieilles légendes urbaines qui disaient que le responsable du chantier, quand c'était le temps de couler l'asphalte et c'était pas à bonne température, il était appelé à l'autre bout du chantier puis là, on coulait l'asphalte le plus rapidement possible.
Quand tu as plusieurs entreprises qui vont soumissionner, qui se tiennent dans les prix, qui ont très peu d'accord entre...
Comment ça peut arriver, ça, qu'ils se tiennent?
Non, mais en fait, quand je dis qu'ils se tiennent, ce que je veux dire, c'est que je dis, par exemple, un contrat qui était évalué par le ministère des Transports qui serait... à 8 millions.
Ouais.
Il y en a un qui est à 9, puis l'autre est à n'importe quoi, le 7,8 millions.
Oui.
Quand les prix sont quand même près de l'évaluation, ben, ça veut dire que les firmes puis les entrepreneurs ont bien évalué les travaux qu'ils avaient à faire, fait qu'ils ne devraient pas avoir de surprise. J'ai déjà travaillé dans le privé. Puis quand on est le plus bas soumissionnaire qui réussit à obtenir le mandat, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que j'ai échappé quelque part? Qu'est-ce que j'ai pas inclus dans mon devis que j'aurais dû inclure qui explique la différence de prix avec mes compétiteurs? Fait que, tu sais, ils font leur profit, mais eux, il ne faut pas qu'ils fassent d'erreur dans leur soumission, parce que sinon, ben, c'est eux autres qui vont manger le bas aussi. S'il n'y a pas de surprise sur le chantier, évidemment.
Andy Guyaz, vous êtes ingénieur secrétaire trésorier à l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec. Pourquoi vous faites une grève du travail supplémentaire actuellement, alors que vous dites oh, « ben, nous autres, on voudrait travailler plus là, en ingénierie ».
Bien, on s'explique mal ce qui se passe présentement. C'est vrai que les deux dernières négociations, on a réussi à faire des pas très intéressants au niveau salarial. Il faut demeurer compétitif dans le marché. Sauf que là, actuellement, à la table de négociation, c'est un peu un dialogue de sources. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est en médiation actuellement. Donc, le conflit de travail se poursuit.
Ça fait combien de mois, là?
Ah, mon Dieu, ça fait...
On s'est parlé une première fois, il y a une couple de mois.
Depuis le 31 mars 2023, en fait, qu'on est en conflit de travail. Les conflits de travail, à cause que l'employeur n'est plus en mesure de passer des lois spéciales, s'éternisent de façon monumentale. C'est... En tout cas, vous irez voir le nombre d'employés qui travaillent au Conseil du Trésor. Là. Eux, leurs effectifs augmentent parce qu'ils ont besoin beaucoup de monde pour retarder les négociations. Ben, je dis pas qu'ils retardent les négociations. Ils vont toujours dire qu'ils négocient de bonne foi. Mais initialement, voilà quelques années, on arrivait à régler un conflit de travail en 40 rencontres. La dernière négociation, on était à 80. Là, on est à 70 rencontres. C'est sûr que nos membres nous demandent « Mais qu'est-ce que vous faites en négociation pour faire autant de rencontres? » Ça n'a pas de bon sens.
Mm-hmm. Puis le fait qu'on vous fasse remplir que des papiers ces temps-ci puis on vous fait pas faire de job d'ingénierie, c'est-tu étranger à ça? C'est que la négociation va pas comme le gouvernement voudrait que ça puisse aller?
Non, mais les formulaires n'ont rien à voir là-dedans, mais honnêtement, là, on est un peu écœuré d'être en conflit de travail.
Ben, je comprends.
On est vraiment écœuré. Tout ce qu'on demande de faire, là, c'est de travailler puis de mettre nos ingénieurs. J'en ai quelques-uns qui ont su que quand on levait notre grève, parce qu'on va lever la grève de temps supplémentaire dans 3 semaines, ils sont épuisés. Non? Ils sont épuisés parce que ils doivent couvrir des services essentiels. Il y a des équipes qui sont limitées pour couvrir ce genre de services essentiels-là. La grève est pas facile pour nous autres, et pas facile pour personne. Fait que nous, on souhaite vraiment que le conflit soit les dernières nous le plus vite possible.
Il manque quoi? J'imagine qu'il y a un peu de salaire là-dedans, le rattrapage salariaux.
Ben oui, mais tout le monde a eu ça un peu. Là. Ouais. Je veux dire, vos auditeurs connaissent un peu le pattern. Il y a le fameux 17,4% qui est versé sur qui sont les paramètres généraux.
17,4 pour combien d'années?
Pour 5 ans. Puis après ça, ben La majorité des syndicats ont eu du sectoriel, ce qu'on appelle. C'est pour venir, on va dire, régler certaines problématiques particulières pour chacun des corps d'emploi. On en a de notre côté là, des situations particulières à régler. On les a présentées au gouvernement, mais de leur côté, ils s'obstinent à dire que les deux dernières négociations, on en a eu assez, là. Les ingénieurs, ce coup-ci, là, vous allez manger votre pain noir. C'est ça le signal qu'on nous lance actuellement.
La meilleure des chances pour la suite, en espérant que ça se règle pour vous. Puis s'il y a quoi que ce soit, M. Guyaz, vous savez que vous pouvez nous contacter n'importe quand.
Absolument.
Merci beaucoup, Andy Guyaz, qui est ingénieur secrétaire trésorier à l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec. Max, on va aller sur la route dans les prochaines secondes.
C'est une rencontre d'enfance
971-1 par messagerie texte. Max?
Sur la route, je vous rappelle, plus tôt, il y a eu fermeture de la 20 direction est dans le coin de route du président Kennedy. C'est maintenant réglé pour ça. Par contre, le problème se retrouve maintenant un petit peu passé la route du président Kennedy parce qu'il y a beaucoup de voitures qui étaient bloquées, qui sont maintenant juste bloquées un petit peu plus loin. À part ça, c'est moins pire qu'on pourrait le croire, j'ai envie de dire. Là, sûr que c'est juste lundi. Peut-être que demain matin, ce sera autre chose. Un peu d'attente pour la porte nord, sinon petit ralentissement Arcade Sud, hauteur Chauveau-Ouest. Capitale, ça va encore quand même assez bien.
Parfait. C'est 1 degré sur Québec. C'est de la pluie ou de la neige pour aujourd'hui et ce soir. Pour ce qui est de ce soir, on nous annonce encore un 2 à 4 cm, un minimum de 0, un maximum de plus 3 degrés pour ce qui est d'aujourd'hui. Demain, mardi, encore une fois, c'est de la neige intermittente. Un autre 2 à 4 cm. Denis Gravel s'en vient après ceci.
Le Pit Stop avec Denis Gravel, présenté par Identité.